Vendredi 6 janvier 2023. Aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à vous faire. Je pense que c'est impératif que je parle de ce sujet dès le départ parce qu'aujourd'hui, c'était une très grosse journée. Il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense qu'au nom de la révision des comptes et de moi-même, Bénise Money, je voulais clarifier, exprimer surtout mon soutien à tous ceux aujourd'hui qui ont protesté, qui se sont levés, qui sont allés de déclaration choc pour que justice soit rendue. Et je les appuie énormément, ceux qui sont allés protester devant le Rolling Stones magazine pour dire que Céline Dion, ça n'a pas de bon sens qu'elle soit pas dans le top 200. Oui! C'est important de dire les vraies choses, mesdames et messieurs. Et ce soir, on va en dire beaucoup des vraies choses. C'est votre révision des comptes, la super révision des comptes qui finit plus parce qu'il y en a eu du show ce soir. C'est incroyable, ça commence maintenant! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans votre révision des comptes, celle du vendredi 6 janvier 2023, malgré qu'on ait déjà dépassé, oui, minuit. Il est donc officiellement, nous sommes donc officiellement, oui, le 7 janvier 2023. Bienvenue, bienvenue, prenez place, merci à tous ceux qui sont là à cette heure tardive, mais on est habitué, c'est la semaine de fou où on est complètement débalancé dans l'horaire. Alors voilà, ça se poursuit et on espère que là, les choses vont rentrer dans l'ordre dans les prochaines semaines. Mais disons que grosse semaine, ça nous en a demandé beaucoup. Et là, ben aujourd'hui, ça a été la folie furieuse, naturellement. Cette semaine qui a été magique au niveau des shows de lutte qu'on a eu. On a eu du gros stock. Mais naturellement, il fallait finir la semaine en beauté avec... La nouvelle du jour, pendant que je salue Messiah, Yann Demers qui est là, Ricky Bobby qui est là, merci beaucoup. Oui, Bénise Money, mais on garde les Grecs. Nous ne sommes pas monnaie. Je n'ai pas encore l'intention de me mettre des flammes dans les cheveux. Ce sera pas ça cette année, je ne pense pas. Mais c'est beaucoup trop d'entretien. Bref. La nouvelle du jour, vous la savez, vous la connaissez, vous l'avez entendue partout. Vince McMahon est de retour. Oui, Vince McMahon est de retour. Au moins, pour l'instant, seulement dans le CA, le Board of Directors, seulement du côté exécutif de la chose. Pas encore du côté créatif de la chose, mais ça pourrait arriver plus vite qu'on pense. Il ne faut pas oublier que Vince McMahon est dans la business de la lutte depuis 40 ans et plus. On peut rajouter peut-être 80 ans si on veut. Il a toujours vécu, toujours appartenu à ce monde, à cette industrie. Ça va être très difficile. Et on l'a vu aujourd'hui dans tout ce qui est sorti de ce... C'est une guerre. C'est vraiment une guerre. S'il y en a qui pensent que c'est un petit affaire, c'est un petit jeu de coulisses, Vince McMahon revient, etc. Non! Et là-dessus, je vais vous référer tout de suite au site de Post Wrestling avec l'article, oui, qu'ils ont écrit. Et je vous réfère aussi à une émission spéciale qu'ils ont eue aujourd'hui sur leur chaîne YouTube, Post Wrestling, si vous êtes familier avec eux, et avec WrestleNomics, Brandon Thurston de WrestleNomics, qui ont expliqué beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ce dossier-là. Je me réfère donc à leur site pour vous montrer un peu, justement, qu'est-ce qu'ils ont sorti de ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit dans les dernières semaines, parce que ça remonte, on peut remonter l'histoire. Vous avez sûrement entendu les rumeurs au mois de décembre à un certain moment. C'est intéressant pareil, parce qu'on le sait que dans la tumulte de ce qui s'est passé cet été, le grand renversement, Vince McMahon qui quitte, l'arrivée de Triple H, c'est devenu la lune de miel. Ça coïncidait qu'ils se mettaient pas en même temps, tout est arrivé en même temps. All Elite Wrestling, le grand déclin, c'est tout était timé, parfait. Là, tout à coup, toute la bonne presse était du côté de la WWE, toute la mauvaise presse du côté de la All Elite Wrestling. Et là, oups, tout à coup, un moment donné arrive au mois de décembre, un peu après Survivor Series. Hop! Vince McMahon veut revenir et là, tout à coup, la lune de miel est terminée, les affaires ne marchent plus. C'est assez intéressant. Le timing est quand même assez spectaculaire. Bref, si vous regardez dans l'article de Post Wrestling, on parle notamment d'un premier courriel qui a été envoyé par Vince McMahon au mois de décembre, le 20 décembre, qui demande à ce que Vince McMahon soit réintégré sur le board of executive et qu'il soit le chairman, c'est-à-dire le président du conseil d'administration. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, parce qu'il veut. Il y a une proposition très intéressante d'une grande valeur pour les actionnaires de la WWE. Il est majoritairement actionnaire, donc à près de 37-38% des parts et ses parts sont plus importantes que quiconque. Donc, quand il dit « c'est très intéressant ce que j'ai pour les membres du shareholding, les actionnaires de la compagnie », ben il fait surtout référence à lui-même. Mais bon. Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une très grosse proposition qui pourrait amener beaucoup de valeur aux actionnaires de la WWE. Et pour ça, ben, il doit absolument redevenir le chairman of the board. Ce à quoi quelques semaines, ben en fait une semaine plus tard, 7 jours plus tard, le conseil va lui répondre en disant « Ben, tu sais quoi, c'est beau, mais ça va très bien nos affaires. On va être prudent avec, ici on le mentionne, qu'on va être prudent parce que, bon, il y a des choses qui sont encore, qui ne sont pas connues du public, des informations qui ne sont pas connues du public et qui pourraient faire mal à la compagnie et, tu sais, ça pourrait être compliqué pour eux, tout. Fait qu'on aimerait mieux, tu sais, que ça n'arrive pas. Finalement, le 31 décembre, tout juste au tournant de l'année, Vince McMahon a répondu disant « Ah, ben non, mais tu sais quoi, ben, vous oubliez une partie très importante du fait que j'ai quelque chose d'excessivement important pour les actionnaires et c'est une petite transaction stratégique. Tout ça fait en sorte que, tu sais, au contraire, je pourrais maximiser la valeur potentielle dans cette transaction, etc. Bref, il faut absolument que je sois là. Et rajoutant cette semaine, c'est en fait, je pense que c'est hier qu'il a envoyé un message, un statement officiel de sa part, disant qu'il aimerait revenir, qu'il a une opportunité absolument incroyable pour les actionnaires et que, bon, il veut ramener aussi, pas juste lui-même, mais bien Michelle Wilson et George Barrios. Qui sont-ils? Ce sont les anciens VP qui étaient là en 2020, tout juste avant la pandémie, et qui, eux, ont été remerciés, laissant la place à Nick Khan. Eux, selon les dires, étaient plus les créateurs, idéateurs du network. Pour eux, c'était leur bébé. C'était leur affaire, c'était ça leur façon, leur business plan, etc. Et bref, ils ont été remerciés en 2020. Et ben, par la suite, ben, le network a été vendu à NBC, Comcast, donc pour que ce soit maintenant disponible sur la plateforme Peacock. Donc, tu vois que Vince McMahon revient. Et il ne revient pas seul parce qu'il revient avec Michel Wilson, George Barrios, et ce qui a fait que trois des personnes qui sont sur le board ont dû démissionner. Et un petit détail qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, là, il y a eu le départ, bon, on les voit ici, les noms, Joellen Lyons Dillon, Jeffrey R. Speed et Alan M. Wexler qui ont été démis de leur fonction pour permettre à Vince McMahon, George Byers et Michel Wilson de prendre leur place. Et tiens donc, tout de suite, juste ici, on voit Ignace Lahoud et Manjit Singh ont, eux, donné leur démission. Ce qui fait qu'il n'y a pas juste trois personnes qui ont quitté le board, il y a cinq personnes qui ont quitté le board. Et qui est Manjit Singh? C'est celui qui s'occupait, qui était le chef de cette enquête interne pour essayer de voir ce que Vince McMahon a fait de correct, pas correct, et toutes les allégations, etc. C'était lui, ça. C'était lui qui était responsable de mener cette enquête. Et aujourd'hui, il a démissionné. Alors, ça va très bien. Alors, vous voyez que, justement, comme on le dit dans l'article, Vince McMahon, malgré le fait qu'il soit à la retraite, a quand même conservé 80% des voting power. Donc, dans la compagnie, c'est lui qui a 80% du vote. Ce qui fait que c'est lui qui décide pas mal de ce qui se passe, de ce qui arrive avec la compagnie. Et là, le fait de revenir, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, l'action en bourse a explosé. On était à peu près 84-85 $. C'est à peu près 15-16% d'augmentation en une journée suite à cette nouvelle-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour la WWE? Beaucoup de choses. D'abord, Vince McMahon veut revenir. Pourquoi il veut revenir? Pour être en poste, pour être en charge. Lui, il le dit sous prétexte de la vente de la WWE, sous prétexte que sans lui, la vente, que lui, l'offre qu'il a, l'opportunité qu'il a, ça ne peut pas arriver si lui n'est pas en place. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup, quand tu regardes le portrait en tant que tel, tu vois que la compagnie ne veut pas que Vince McMahon soit de retour et Vince McMahon veut absolument forcer la compagnie à être de retour, ce qui augure rien de bon, très honnêtement. Est-ce que la compagnie sera vendue? On va voir. Est-ce que c'est un bluff? Ça peut être aussi un bluff de la part de Vince McMahon simplement pour retourner en poste après. Peut avoir des conséquences sur le fait de leurrer les actionnaires, leur disant des choses, puis finalement que c'est pas vrai, puis etc. Il peut avoir des poursuites, etc. Je pense pas que Vince McMahon, ça lui fait très, très peur, les poursuites. Mais on verra s'il y a quelque chose de concret. À l'aube, là, parce que là, 2023, c'est en 2023 qu'on va faire les appels d'offres pour la prochaine signature de contrat de télévision qui vont être naturellement très importants. On est à une période où justement les postes de télévision cherchent du contenu, mais pas juste les postes de télévision, toutes les plateformes numériques en ligne qu'on connaît, que ce soit les Netflix, les Disney, les Amazon. Et la compagnie qui sont les plus probables d'y aller d'une transaction avec la WWE, c'est fort probablement Comcast, donc NBC, Universal, qui eux ont grandement intérêt. D'abord, le USA Network, c'est presque un incontournable Raw pour même la survie de cette chaîne de télévision-là. Est-ce que NBC va faire l'évaluation de se dire, tant qu'à avoir des sommes faramineuses à débourser année après année, pourquoi ne pas y aller directement d'un achat puis d'avoir cette propriété-là sous notre giron et qu'on n'ait pas à débourser en plus, qu'on puisse utiliser la marque de commerce dans plein d'autres secteurs, dont Universal. On parlait de la même chose un peu pour Disney, mais pour Universal, c'est peut-être plus concret de par les autres éléments et les autres secteurs que ça touche. Bref, est-ce que c'est ça? Est-ce que Vince McMahon veut être impliqué dans la transaction? Ça fait longtemps que Vince McMahon a des liens quand même assez étroits avec les gens de NBC, Universal. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'il y avait d'autres investisseurs ailleurs? Là, il y a même les rumeurs qui sont parties de l'Arabie Saoudite qui serait aussi intéressée à mettre ses billes dans la WWE. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Vince McMahon serait assez fou pour aller vendre tout ça? Tout ça en parallèle de l'autre grosse compagnie aussi qui est impliquée dans le sport de combat, c'est-à-dire Endeavor, propriétaire du UFC, qui eux aussi nagent présentement un peu dans le psychodrame avec Dana White, qui Dana White était là à quelques jours, si vous avez vu les publicités passer sur le réseau de TBS, où tout de suite après Dynamite, je pense, durant la saison d'hiver, on allait présenter Dana White Power Slap. Oui, Power Slap, l'émission où les gens se slapent d'en face. C'était une très bonne émission. Et là, ben, durant les fêtes, Dana White a été surpris en état d'ébriété, en train de Power Slap sa douce moitié. Alors, c'est une très, très, très bonne chose à faire. Prenez des notes à la maison si jamais vous voulez partir une émission de Power Slap, de faire un Power Slap à sa douce. Très fort. Très fort, Dana White. Alors, c'est ça. Mais on dirait que, justement, dans c'est ça. Le niveau de pouvoir de ces gens, ils sont au-dessus de tout, font tout ce qu'ils veulent. Comme Vince McMahon qui revient, contrairement à Dana White, lui, il n'a même pas eu besoin de s'excuser ou de quoi que ce soit. Les allégations, on s'en fout. C'est certainement pas personne qui vont venir dans leur face leur dire que « Oh non, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites. » Hein? Ben non, on met tout ça, tout ça est en dessous du tapis, on envoie des millions, personne ne dit rien, tout est beau. C'est assez phénoménal tout ça. Bref, pour le fan de lutte comme nous le sommes, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être des risques. Que Vince McMahon soit impliqué ou non dans le processus créatif, il y a des risques pareils. J'ai lu partout, vous avez lu partout que, bon, les gens ne sont pas super heureux de cette possibilité que Vince McMahon revienne. Normal, parce qu'on avait pensé qu'on était en train de tourner la page, qu'on allait vers une autre direction. En même temps, est-ce que les dernières semaines, les derniers mois nous ont vraiment prouvé que l'ère Triple H est si différente? Il y a encore du travail à faire, mais bon, ça reste que l'ambiance, comme on en parle souvent, l'ambiance dans les vestiaires semblait meilleure. Est-ce que ça va jeter une douche froide? Peut-être. Mais c'est surtout pour des petits détails niaiseux qui sont peut-être pas si niaiseux que ça, mais est-ce que, par exemple, un The Rock, tout à coup, sa présence à WrestleMania, est-ce que c'est bon pour son image? On ne sait pas. Peut-être. Ça se peut. Le portefeuille de Triple H, maintenant, pour faire l'acquisition de nouveaux talents. C'est-tu plus compliqué? Les nouveaux talents ou les talents qui sont à All Elite Wrestling qui voient ça, est-ce qu'ils ont le goût maintenant de revenir au bercail? Tu sais, sachant que peut-être qu'à un moment donné, Vince McMahon se lève, puis hop, voilà ma liste, puis ben, t'es dehors. Pourquoi? On s'en fout, t'es dehors. Y a-tu de ça là-dedans? Si je suis une femme à la WWE, pardon. Si je suis une femme, est-ce que je me dis, mon Dieu, que mon employeur est un exemple et que ça vaut vraiment la peine de travailler ici pour un homme qui, ma foi, est absolument respectueux. Voilà. On va dire, ouais, mais c'est pas ces mêmes gens. Oui, mais peut-être que oui, peut-être que non. Ça reste que ça, c'est ces personnes-là qui sont au sommet de la pyramide. Maintenant, on va voir. On va voir. Ça pourrait avoir des conséquences sur, oui, le booking, oui, les personnes qui ont des pushes ou pas des pushes. Ça pourrait, tout ça peut avoir des conséquences. Ça reste à voir. Je ne peux pas dire que tant qu'il n'y a pas de transaction, tant qu'on ne saura pas s'il y a vraiment une transaction, tant qu'on ne saura pas si les choses vont évoluer, ou si ça va rester relativement stable, ça va stagner pendant longtemps. En même temps, toute la pression est mise de la part de Vince McMahon. Son retour est mis sous une espèce de « Ah, il faut le faire absolument rapidement parce que j'ai une offre ici là, qui est à la table et que c'est impératif, il faut faire ça absolument. » Est-ce que c'est... micro. Hey, aujourd'hui, vous m'entendez en direct faire du gossage de micro, mais là, mon micro, je pense, c'est mieux. Voilà, pendant que j'essayais de réparer les choses, les trucs. Bon, voilà. On essaye, même moi! Voyez-vous? C'est comme ça. Alors, ça va être une situation très intéressante à suivre dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Pas sûr. Mais n'hésitez pas à vos réactions à vous, ce que vous avez pensé en voyant cette nouvelle-là. Découragé, déçu, intéressé. Comment vous voyez ça? N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes. N'hésitez pas. Merci beaucoup, d'ailleurs, à tous ceux qui ont rejoint, qui vous êtes abonnés à la chaîne maintenant en grand nombre. Merci beaucoup à vous tous et de continuer de partager, de laisser des likes sur le contenu. C'est très, très, très apprécié pour le développement de la chaîne. Alors, grand merci à vous tous. On commence ce soir cet épisode de Super Révision des Comptes assez sur les chapeaux de roue parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de stock. C'était quasiment un pay-per-view ce soir. SmackDown, AEW Rampage et Battle of the Belt. C'est pour ça qu'on est là ce soir à une heure plus tardive. Et on va commencer immédiatement avec ce qui s'est passé à SmackDown. On va y aller rapidement ce soir parce qu'il y avait, comme je vous dis, beaucoup de stock. Et l'essentiel était encore une fois très concentré ce soir. Vous allez deviner que je parle naturellement de la Bloodline. Ben oui, la Bloodline qui a été au milieu de toute l'histoire de la soirée, naturellement. On commence à être habitué. Je ne sais pas si là, il y a eu des réunions de travail où là, les scripteurs de la Bloodline ont peut-être eu un peu peur. Parce que là, ils se disent « Oh non, d'un coup que Vince McMahon arrive. » Puis là, tout à coup, nous autres aussi, on va être obligés de manger de la réglisse noire encore. C'est très épeurant pour les scripteurs. Je ne leur souhaite pas. Parce que ça va très bien. Malheureusement, on n'est pas été dans l'originalité ce soir. On a commencé le show directement avec ce qu'on avait fait dans la dernière semaine à Raw. C'est-à-dire, la Bloodline arrive pour tout casser. Et quand on dit tout casser, c'est-à-dire, ça a créé la table des commentateurs à terre. Parce que c'est à peu près juste ça qu'ils peuvent casser. Tu sais, le reste. Pendant que Roman Reigns fait son entrée, fait que ça les occupe, les petits gars. Tu sais, c'est intéressant quand même. C'est beau. Donc, on rentre. Les gens ont fait le... Oh là, là, c'était très important, ce petit détail, que si vous avez manqué ça. Le 1 dans les airs. Solo Sikoa a fait le 1 dans les airs. Et souvent, Solo, il ne fait pas d'habitude. Puis là, ben, il l'a fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais trop. Bref, les Usos sont là, Solo est là, Sammy, la foule qui crie aussi, aussi, aussi. Et là, ben, Roman Reigns prend le micro et il veut entendre. Le honorary who, c'est-à-dire Sami Zayn. Les gens sont très contents. Alors là, Sami dit, c'est le fun. On a commencé le show pareil comme à Raw. Puis là, on dit à tout le monde que 2023, c'est notre année. Puis on envoie le message que c'est notre année. Puis là, à Raw, on a gagné nos matchs. Puis ouais, c'est notre année. Yeah! Là, Roman Reigns, lui, il prend le coup. Il dit, oh, oui, c'est le fun. Mais parlons de l'année passée. C'est-à-dire la semaine dernière, lui et Sami qui ont eu le match contre Kevin Owens. Et John Cena, puis qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Ben, on a perdu! Il y en a qui disent qu'on a perdu. Moi, je n'ai pas perdu. Mes épaules étaient pas au sol. Voyons donc, je n'ai pas perdu. Moi, je ne perds pas. Ce n'est pas dans mon ADN de perdre. Mais l'autre, Sami Zayn, lui, il se prend pour Babe Ruth. Il dit, ah oui, check ça, on va gagner, c'est sûr. On garantit la victoire, blablabla. Puis, il ne fait pas qu'est-ce qu'il dit. C'est pas gênant pour un gars comme moi? De voir qu'il y a un gars qui se prend pour moi. Il fait comme moi, il colle sa shot, fait ses affaires, puis il s'effoire. Qu'est-ce qui se passe, Sammy? T'essaies-tu d'être comme moi? T'essaies-tu de montrer que t'es capable de faire comme moi? T'essaies-tu de montrer que t'es meilleur que... Là, Sammy, t'es petit dans ses shirts. Kevin Owens arrive à la rescousse, d'une certaine façon, pour dire à Roman Reigns, hey, calme-toi, le tabarnan. Dernière fois, je t'ai vu énervé de même, c'était il y a 2 ans contre moi, parce que t'as failli perdre. Fait que finalement, c'est pas avec Sami Zayn que t'as un problème, c'est avec moi que t'as un problème. Puis là, ben, le petit problème, on va le régler. Royal Rumble, toi puis moi, pif paf pouf pour le titre universel. Ah, wait down! Roman est comme, ah, là, oui, t'es mon problème. Puis là, oui, on va régler ça. Puis là, Kevin Owens, il est comme, ouais, on va régler ça. Puis là, Roman dit, je veux juste que tu t'en ailles. Pas-t'en! Tu me gosses! Là, Kevin a dit, OK, je m'en vais, mais pas pour tout le temps. Mais je m'en vais, puis je vais te retrouver au Royal Rumble. Puis Sammy, je vais te retrouver quand tes gosses vont arrêter d'être dans le sac. À Roman Reigns. Ouh. C'est très intense. Oh là là. Après, on a confirmé comme quoi le match aurait lieu. Ensuite, Sammy voulait parler à Roman Reigns et Paul l'a empêché de rentrer dans le vestiaire. Il a laissé rentrer les Usos, mais Sammy a dit non, non, non. C'est pas le moment. Puis tu sais, je t'ai dit d'être trois coups d'avance, tu sais, la semaine passée, mais là, même si c'était trois coups d'avance, ce serait pas correct pour Roman. Fait que, tu comprends, moi, je t'aime encore. Plus tard, c'est Paul. Ça fait dire par Roman Reigns, « Hey, appelle-moi donc Sami Zayn, là. Oh! » Là, il l'appelle, il tire son téléphone, puis il l'appelle Shmooly, qui est une drôle affaire que je ne savais pas en tout ce que ça voulait dire. Shmooly, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire « celui qui a le nom de Dieu ». C'est assez bizarre. Et Shmooly, ça veut aussi dire « le gars qui est trop heureux de la vie ». C'est assez spectaculaire, mais bon, voilà. Donc, Sami Zayn arrive. Puis là, Roman Reigns, il voulait y parler. Puis là, avant que Roman dise quoi que ce soit, il dit, là, je veux juste te dire, Roman, tu es mon tribal chief. Puis, si j'ai fait quelque chose là, qui t'a fait croire que je voulais, non, je veux rien, je veux pas. Je m'excuse d'avoir fait quelque chose qui t'a donné l'impression que je voulais ton pouvoir. Puis là, Roman Reigns, j'accepte pas tes excuses. Parce que moi, en tant que chef, j'ai des standards. Puis, parler comme je t'ai parlé, là, il n'y a pas personne qui devrait accepter ça. Fait que, j'accepte pas tes excuses parce que c'est moi qui dois contrôler ma rage. Puis Kevin Owens, il a raison. Je suis pas choqué contre toi. Je suis choqué contre Kevin Owens, puis je devrais pas penser ça sur toi. Oh là là. Fait que c'est moi qui m'excuse. Oh, là, ça me dit, mais je comprends, t'as de la pression, puis tout. Mais là, on va le régler, le problème. Et là, finalement, le match des Usos, car les Usos défendaient leur titre contre Drew McIntyre et Sheamus ce soir. Le match a commencé, fait que là, Sami a entendu la musique des Usos, il dit « Oh, Fougial! » Puis le Roman dit « Non, non! Installe-toi ici. » Et là, ben, Sami vient de regarder le match en compagnie de Roman Reigns. Du bonbon tout le long de cet épisode, vraiment, encore une fois, la chimie, Sami Zayn, Roman Reigns, que dire, sont fantastique, fantastique, fantastique. C'est les moments à regarder de SmackDown à chaque semaine. Et la finale est incroyable entre les deux. Je vous le dis déjà d'avance. Je vous le dis, ça va être très spectaculaire. Déjà qu'on a annoncé que la semaine prochaine, alors que je salue Jérémy qui est là, merci de nous retrouver à cette heure, et qui me demande comment je trouve l'évolution de l'histoire entre Sami et Kevin. Ben, la semaine prochaine, premier petit accro, les deux vont s'affronter mano à mano à SmackDown. On va voir comment ça va se terminer, mais on sent que ça regarde très, très mal pour Sami Zayn. Mais c'est parfait de la façon qu'ils le font. C'est bien joué, une étape à la fois, une tuile à la fois. Si on a toujours l'impression, ah, Roman, là, il est choqué. Non, il sais. C'est du vrai bonbon. Ça paraît que toute l'équipe, ils sont une dizaine à peu près qui travaillent à ça, puis ils se relancent les idées, puis c'est le fun. Ils ont du plaisir à écrire les histoires de la Bloodline. C'est fantastique. C'est vraiment merveilleux. On le sait avec ce qui s'en vient à Montréal, c'est sûr que ça va être gros. Le Royal Rumble, comment ça va se passer entre Kevin Owens. Et troisième match quand même, troisième match au Royal Rumble. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que il y a 5 ans, non même plus, 6 ans, 2017, au Royal Rumble 2017, Kevin Owens a défendu sa ceinture universelle contre Roman Reigns au Royal Rumble et c'était au même endroit à San Antonio. Alors vous l'aurez su, c'est assez spectaculaire. Alors on reprend ce match 6 ans plus tard, mais cette fois, rôles inversés. Et donc, on verra. Mais ça va être très intéressant. Puis c'est sûr qu'il y aura une suite parce que, bon, il n'y a quand même pas nécessairement beaucoup de temps entre l'Elimination Chamber et le Royal Rumble, que ce soit à Montréal et tout. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, ça va déboucher. Puis on va voir dans quelle direction ça va aller. Mais c'est très, 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 très intéressant. C'est absolument à voir si vous avez à rattraper SmackDown, c'est les segments à rattraper. Passons maintenant au reste du show, qui a été écrit naturellement par les mangeurs de réglisse. Les pauvres mangeurs de réglisse qui ont tout le reste du travail à faire. Et c'est pas facile, on le sait. Ça commence avec d'abord Charlotte qui est arrivée en décapotable. Charlotte, qui aura son segment un peu plus tard, je suis encore sous le choc de Charlotte. Pas du fait qu'elle est devenue championne, on commence à s'en habituer, mais de la réaction provoquée par Charlotte. Ça me fascine, mais on va reparler quand ce sera son segment à elle. On commence d'abord avec Kofi Kingston qui affrontait Santos Escobar parce que, ils se sont parlé en coulisses cet après-midi. Puis là, Santos Escobar, il a dit « Ah, je vais sûrement t'éliminer au Royal Rumble. Ah, ouais! » Très bizarre. Zelina Vega avait un masque dans les mains. Pourquoi? Je pense que c'est l'ancien masque à Santos Escobar. Elle tient ça dans ses mains comme une marionnette dans la tête d'une... Comme celle-là. Comme ça. Yeah. Et comme ça. Plafait. J'ai un masque de luchador dans les mains. L'avez-vous vu, tout le monde? C'est très bon. C'est excellent. C'est très bon. Bref, ce match-là était fait pour nous faire pratiquer les réactions du Royal Rumble, c'est-à-dire Kofi qui tombe à l'extérieur, mais là, se retient sur ses mains, ensuite sur l'escalier pour dire « Ah, 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 si tu avais fait ça au Royal Rumble, je ne serais pas éliminé. » Alors que lui, Santos Escobar, se fait éliminer par Kofi, puis fait « Ah, ah, ah. » Puis là, après, Escobar dit « Ah, moi aussi, je suis malin. » Lui aussi se fait envoyer à l'extérieur, puis là, il se retient dans les rangs, dans les marches. Fait que là, il est comme « Ah, 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 je suis très malin, moi aussi. » Mais là, Xavier, il prend Francesca, puis il fait un petit « Pum, pum! » Puis là, l'autre, il tombe parce qu'il est comme « Oh, mon Dieu! Ah! » C'est très bon. C'est la saison là où on s'amuse avec ça. Le fait que « Oh là 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 là! » Bref, SOS sur de la part de Kofi sur Escobar qui va s'en sortir au compte de deux pendant que Xavier Woods, lui, chantait à l'extérieur la toune de Kofi Kingston. C'est un bel ajout. Et finalement, toute la gang de Legado del Fantasma ont créé de la distraction. Zelina Vega a distrait Xavier. Il y en a un qui a distrait l'arbitre. L'autre a distrait Kofi. Et puis, ça a permis à Escobar d'y aller de son Phantom Driver, qui est essentiellement un AA, si on regarde ça. Et victoire, donc, en 10 minutes 30, pour dire que, oh là là, il a du momentum pour le Royal Rumble. C'est très bon, ça. Oh là là. C'est ça. Liv Morgan s'est déclarée pour le Royal Rumble. Elle va rentrer et elle a dit, moi, si j'avais le choix, je rentrerais première pour sa crème volée à toutes les autres. Maudite bonne stratégie, ça, Liv Morgan. Tu vois qu'elle a toute sa tête. Ça va très bien. Parlant de toute sa tête, l'équipe créative qui a décidé de faire un match, Karrion Kross et Scarlett contre Madcap Moss et Emma. Ma parole. Le fait saillant, c'est que Scarlett est allée de son premier move de lutte à vie, j'ai l'impression, en tout cas à la WWE. Et c'était un German suplex soutenu pour le tomber, qui, naturellement, a provoqué un écran noir parce que son soute, on n'en parle pas assez souvent du tissu, hein? Les pénuries de tissu. Hein? C'est aussi vrai encore aujourd'hui, en 2023. On n'a pas encore passé au travers de ça, la pénurie de tissu. Et bien, Scarlett, malheureusement, ne peut pas assez t'sais, mettre de tissu pour attacher tout ça. T'sais, tu fais un German suplex, naturellement. T'sais, pauvre elle. C'est dommage, ça. Et là, finalement, elle a fait passer Emma par-dessus la table des commentateurs. Pendant que dans le ring, Madcap tentait de s'en prendre à Karrion, il s'est rentré lui-même dans le poteau. Et Karrion Kross lui a appliqué le cross jacket pour la victoire. Et là, après le match, Scarlett a décidé de faire une chose épouvantable, c'est-à-dire de mettre un masque de Rey Mysterio, genre, là, parce que c'était juste des 619 écrits sur un masque de luchador. Puis elle a mis ça sur la tête à Madcap Moss et Karrion Kross a sorti une carte, comme la petite carte de tarot, avec la tête de Rey Mysterio. Puis il a fait « Ah, tu le sais qu'un jour, ce sera toi. » C'est très menaçant. Très, très, très menaçant. Hop là. Alors, je ne sais pas combien de temps le match a duré, parce que nous, on a seulement vu 3 minutes. Le match était déjà commencé. Tu vois l'intérêt, ça. Quand un match est déjà commencé pendant la pause, tu sais que, oh là là, que c'est beaucoup d'intérêt. Alors, moi, ce que j'ai vu, je leur donne. Presque. Je donne 2 presque. Voilà. C'est très, 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 très bon. À rattraper si C'est ça, si vous voulez, vraiment, vraiment. Sinon, malgré que c'était la première fois que Scarlett. C'était le retour de la reine Charlotte, qui était de retour, malgré qu'elle était de retour la semaine dernière. Mais là, elle faisait son retour, du fait qu'elle était de retour. Mais de retour. Je ne sais pas si vous l'avez manqué, parce que vous écoutiez sûrement le 316%, mais elle est de retour, elle est championne. Ça s'est très bien fait, son retour. 30 secondes, Ronda Rousey, pif, paf, pouf. La foule, vous en reviendrez pas. C'est à quel point les gens ont trouvé que Ronda Rousey, tabarnouche qu'elle est mauvaise. Les gens ont chanté à Charlotte, « Thank you, Charlotte », en voulant dire hey, que ça nous fait du bien que tu aies libéré nos yeux et nos segments plates avec Ronda Rousey. C'est très gentil, Charlotte, merci. Tu vois qu'on était assez désespérés en tant que fan de lutte pour espérer le retour de Charlotte pour qu'elle vienne nous sauver de Ronda Rousey. Tu dis, on part de ça. Souvenez-vous où on était au mois de mai l'année dernière où Ronda Rousey avait perdu de façon assez pouette-pouette contre Charlotte à WrestleMania. Finalement, elle a pris sa vengeance à Backlash. Et on est 8 mois plus tard puis on se dit, oh my God, my God, my God. Ouf, c'était pas bon ça. Hein? Bref, les gens très heureux. Et elle nous fait dire à nous que Payback is a bitch, n'est-ce pas? Hein? Et là, ben, elle nous dit depuis 8 mois, hein, vous m'avez manqué, mais si vous aimez me détester, ou si vous détestez m'aimer, ou en tout cas, bref, je suis très heureuse de la réaction que j'ai eue la semaine dernière. Je suis tellement heureuse, oh mon Dieu, j'en reviens pas que les gens soient tellement comme, tu sais, si vous m'aimez, si vous me huez, ou si vous faites. Wouh! Colin, que je suis contente, là. Puis, vous le savez, j'ai toujours eu la passion puis le dévouement pour cette compagnie-là puis pour la lutte. Puis, je vais toujours le faire. Puis, moi, je serai jamais complaisante. Je vais toujours en demander plus. Puis, n'importe qui va se placer dans mon chemin. Je vais toujours faire ce que je fais, c'est-à-dire devenir championne puis les abattre une après l'autre. Puis, c'est ça que j'ai fait 14 fois. 14 fois, mesdames et messieurs, 14 fois! Ce qui est très litigieux, by the way, parce que elle a été championne diva et son titre s'est transformé en titre de la WWE, mais c'est deux titres différents. Fait que ça fait comme 13-14. C'est un peu compliqué. Bref, Sonya Deville arrive et là, elle veut empêcher Charlotte de célébrer trop, disant genre « Hey, ma maudite, t'as gagné contre Ronda Rousey qui était à moitié morte de son match contre Aquel. Fait que là, tu vas affronter une vraie combattante. Qui ça, une vraie combattante? Toi? » Ah ben, maudit. Puis là, la foule qui crie « Whoop that trick! Whoop that trick! » Ce qui est une expression que je n'avais jamais entendue. Pardonnez mon inculture. Mais « Whoop that trick! » C'est ce qu'on peut dire un peu comme « ta bitch » quand t'as pas le trop. Puis là, tu y sacs une bonne claque de pim. Paf! Pour dire « Hey! Ramène-toi dans le rang, puis ferme ta gueule. » Alors, c'est très beau. Tu vois que les gens du Tennessee où on était ce soir. Beaucoup de respect pour les femmes. Alors, avec tout ce qu'on a appris cette semaine, Vince McMahon, Dana White, bravo à la foule du Tennessee. Champion, bravo. Alors, ben c'est ce qui va arriver. Il y aura match entre les deux. Sonya Deville et Charlotte vont s'affronter dans un match de quelques minutes parce que, naturellement, on ne s'attendait certainement pas à ce que Sonya Deville l'emporte contre Charlotte. Ce n'est pas arrivé. Ne vous inquiétez pas. Et ça a été le fait saillant de ce match quand Charlotte a décidé d'imiter Dana Brooke. Oui, Dana Brooke, tu sais, qui part d'un coin à l'autre, qui fait de la gymnastique. Elle a fait la même chose, mais à moitié, c'est-à-dire faire un coup de gymnastique, faire une roulade sur les mains par en avant, avec aucun momentum. Honnêtement, c'était comme CM Punk qui essaie de faire le Buckshot Lariat. Aucun Christy momentum dans son espèce de roulade. Wouapa! J'ai fait de la gymnastique et la Sonya Deville est obligée de faire semblant qu'elle avait reçu une énorme corde à linge. C'était très bon. Spear Figure 4 transformé en Figure 8 et victoire pour Charlotte! Et les gens l'adorent. Je comprends pas. Les gens, c'est fou. C'est comme ça, tu peux virer de bord demain. C'est fantastique. C'est beau. C'est ça. Je sais pas ce que les gens adorent. Je peux pas dire. Je sais pas. J'aimerais ça dire que je ne sais pas. Moi, j'ai pas vu de différence avec l'ancienne Charlotte. Vous allez dire, ben voyons, C'est sûr qu'elle est allée sous le bistouri. Peut-être, mais je n'ai pas remarqué. Moi, je ne remarque pas ça. Bref, je ne suis pas encore embarqué. La division féminine de SmackDown, ouf, ça fait pitié, disons-le. Pour que les gens soient à ce point désespérés de revoir Charlotte. Il y a Lacey Evans, elle, qui s'entraîne, Militari. Manu Militari. Je ne sais pas si tu peux t'entraîner, Manu Militari, mais elle s'entraîne. Et là, on nous montre qu'elle fait de l'entraînement avec probablement d'autres soldats. C'est ce qu'on soupçonne. Dans un ring de lutte directement sur une base militaire. C'est digne de Street Fighter, ça, ce film-là. Ah oui, c'est très, très bon. Après Scream 2, je pense que ce serait bon qu'on fasse des hommages à Jean-Claude Van Damme et Street Fighter, mais bon, on verra. Bref, la grande nouvelle, c'est que Lacey Evans a appris le Camel Clutch, mesdames et messieurs. Alors, ça fait d'elle une arme redoutable. Elle, qui avant n'était qu'une blondasse qui savait sauter de la troisième corde. Maintenant, elle a appris le Camel Clutch du sergent Slaughter. C'est une technique qu'on se transmet de personne militaire à autre personne militaire. Il y a quelqu'un qui a allumé. Ils se sont dit, ouais, ben là, elle est supposée être militaire, mais elle n'a rien de militaire. Puis elle a dit, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner de militaire? Une Camel Clutch. Alors, voilà. Elle a la Camel Clutch maintenant. C'est ça. Est-ce que ce sera bien exécuté? Christi, qu'on en doute. Oh là là. Bref, on verra quand elle va revenir. C'est ça. On va voir. Il y a, pendant ce temps-là, il y avait Drew McIntyre et Sheamus qui, eux, ont passé l'après-midi au bar de Jerry Lawler pour se donner des claques sur le chest en se remémorant leur bon match du passé. C'était très bon. Et au début, la foule s'en foutait beaucoup, qui était dans le bar. Quand même une foule assez présente. Là, il y a beaucoup de monde. Mais tout le monde s'en sacrait pas mal, jusqu'à temps qu'ils disent « À soir, on va faire comme d'habitude. » Bangers, après bangers, après bangers. Puis là, toute la foule a embarqué. Là, ils ont réalisé que Drew McIntyre et Sheamus étaient là, malgré la caméra puis les spotlights toute la patente. Ils n'avaient pas remarqué encore. Personne ne s'était retourné pour les regarder. Quand ils ont entendu « Bangers », ils ont dit « Oh mon Dieu, Sheamus puis Drew sont ici. Bangers, après bangers, après bangers. » C'est très beau. C'était le fun. C'était beau. Jérémy qui dit, je pense que c'est un autre rebuild pour son personnage. Pour vrai, la retournée à NXT lui ferait peut-être du bien parce que je la trouve pas super. Quand tu l'as, cette option-là, me semble que je m'en serais servi, surtout dans le cas de Lacey Evans. Son in-ring est assez moyen. Son personnage assez moyen, Christy, tu l'as, le département, pour t'en servir. Vas-y! C'est exactement ce à quoi ça sert. Ils ont retourné Apollo Crews. Ils peuvent bien retourner Lacey Evans. Pas personne qui chialerait si même elle devenait championne NXT. On s'en fout. Porte-toi un escadron. Pourquoi pas? Ce serait effectivement une bonne solution, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Les solutions, ouais, t'sais. C'est compliqué, ça. Les voyages en Floride, puis tout. T'sais. Et là, là. Un autre qu'il pourrait lui aussi retourner, et là, là. NXT, je ne suis pas sûr. Peut-être. Top Dollar. Top Dollar affrontait Ricochet. Pourquoi très fâché que Ricochet se soit moqué de lui du fait qu'il n'est pas capable de sauter par-dessus la troisième corde pour faire un Topicon Hero? Loser. Alors, très fâché, Top Dollar. Et il a voulu se fâcher. Ce match-là était pour se qualifier pour le Royal Rumble. Alors, on se doutait bien que Top Dollar ne pourra pas se qualifier pour le Royal Rumble. Il serait pas capable de passer par sa troisième corde.
Voilà.
On rit de Top Dollar. Mais Top Dollar a perdu à 1:58, oui. Beau shooting star press de la part de Ricochet, mais après le match, a voulu être gentil, a voulu donner la main en signe de respect à Ricochet, puis là, Sean Tadonis a frappé Ricochet, puis tellement tout c'était un leurre. Alors, ils ont attaqué Ricochet, même Bifab s'est joint au groupe là, avec un bon kick dans la face, pif, paf, pouf. On était sur le point, je ne sais pas de faire quoi, un autre powerbomb ou quelque chose du genre, quand Braun le chouchou est arrivé. Et quand on voit Top Dollar et Braun dans la même image, tu te rends compte que finalement, Top Dollar, c'est la version 1$ de Braun Strowman. Tu sais, la version pas trop en forme, la version ordinaire, la version il-la-la. Fait que c'est bon. J'espère que les deux vont se rencontrer bientôt pour qu'on puisse les avoir proche-proche, faire un beau face-à-face. Puis là, tu dis, comme ça, les mimes vont être parfaits. Ça va être excellent. Il va falloir les séparer de même. Mais voilà. C'est ça. Mais au moins, là, les shows sont rendus heal. Alors ça, c'est l'aspect très positif de tout ça. On peut maintenant voir la gang de Hitro comme des heals. Fait que ça nous permet de les huer. C'est bien plus simple que de juste rester nonchalant et d'attendre que leur segment soit fini. T'sais, ça nous permet de s'amuser aussi. C'est très bon. Jérémy qui parle justement de Lacey Evans. Son in-ring est générique. Et quand tu te rends le moveset, juste à avoir fait ton... C'est comme, oui, c'est le personnage très générique, effectivement. Mais on oublie qu'elle fait des... Tu sais, elle fait un moonsault. Elle est capable de faire un moonsault en springboard. C'est pas rien, ça. Top Dollar, pas capable de faire ça. Prochain match, c'est le main event de la soirée. J'ai oublié qu'il y a eu une petite entrevue avec LA Knight. LA Knight qui va affronter Bray Wyatt. Ou peut-être tout son clan, on ne le sait pas. Uncle Howdy peut-être va être là parce que ils auront leur Mountain Dew Pitch Dark match. Ça, c'est un match pas facile. T'es dans le noir, tu vois rien. Puis il y a plein de Mountain Dew qui coulent partout. Puis t'es comme, oh my God. Puis t'essayes de passer au travers des filets de Mountain Dew qui coulent du plafond. Puis t'es comme... Mais ça, les filets de Mountain Dew, ils vont être placés devant la caméra pour que nous, on puisse voir. Vous voyez, ça fait comme un espèce d'effet, tu sais, de lumière infrarouge, infraverte. Voilà. Grâce au Mountain Dew. Fait que c'est le Mountain Dew qui va nous permettre, nous, de voir ce match pitch black. Pendant que les lutteurs, eux, verront rien. C'est très, très bon. Ça va être bon. Ça va être très, très bon. Mais bravo à Mountain Dew d'avoir décidé de... Puis là, il est très hâte. Il est très hâte parce que là, il s'est rendu compte la semaine dernière, puisque Uncle Howdy s'est tourné contre Bray Wyatt, puis il a fait le Sister Abigail, que là, les plans Bray Wyatt, ça marche pas partout. Yeah! Il est très heureux de l'affronter dans une petite pièce sombre. Parce qu'on le sait pas, en fait, ça va être quoi. Ils vont juste fermer les lumières de l'aréna? On le sait pas, on le sait plus. Oh my, Mike, on est excité. Le main event de la soirée, c'était les Usos qui défendaient leur titre par équipe face à Drew McIntyre et Sheamus. Match qui, ma foi, a pris un peu de temps à se mettre en branle parce que, bon, on a eu deux pauses quand même assez rapidement au début du match. Mais une fois qu'on est revenu de la deuxième pause, là, ça a commencé à être plus intéressant. Il y a eu les Beats of the Bodrum de la part de Sheamus. Il en a fait encore une fois 20 sur Jay. Ensuite, tu avais Sami Zayn qui était dans le vestiaire de Roman Reigns, qui mangeait un bol de popcorn. Puis c'était très le fun de voir l'évolution. Ça a commencé en voulant donner du popcorn à Roman Reigns. Puis Roman Reigns, moi, j'en veux pas de popcorn. Mais là, finalement, quand on est revenu, Tipo, elle avait son bol de popcorn. Finalement, après, quand on... Là, Roman Reigns aussi, il avait ça. Tout le monde avait son petit bol de popcorn. Il les a tous convaincus d'avoir des petits bols de popcorn. C'est intéressant. Quand même. Bref, Usos splash de la part de Jimmy. Sheamus a kické out. Ensuite, il y a eu un double white noise qui était supposé d'être fait en stéréo, mais malheureusement, il a été fait en canon parce que Drew McIntyre a manqué le timing un peu, mais c'était beau pareil. Le Jay a kické out à deux. Drew a ensuite effectué le Claymore sur Jay, mais Jimmy a empêché le tomber à la toute dernière minute. Jimmy a empêché Jay de subir la cross powerbomb de Sheamus, l'équivalent du Razor's Edge. Bref, ça n'a pas passé pour Jay. Et bref, 1D sur Sheamus, mais c'est Drew cette fois-ci qui a empêché le tomber in extremis. Là, Solo s'en est mêlé, a fait le spinning sur Solo sur Drew McIntyre, mais là, les brutes sont arrivés, se sont attaqués deux contre un sur Solo qui s'est fait expulser par-dessus la barricade. Il est tombé dans une flaque de je ne sais pas quoi, c'est tout orange à terre, c'est un peu bizarre. Sheamus ensuite a fait son broke kick sur Jimmy, mais Jay l'a sorti en dehors du ring. Et finalement, les deux, Jimmy et Sheamus, sont retrouvés dans le ring. Et là, il y a eu roll-up sur Sheamus, alors que Jay a mis ses pieds comme à la belle époque, c'est-à-dire l'an passé, qui faisait tout le temps ça, les pieds dans le dos de Jimmy pour y donner un petit edge de plus et réussir le roll-up, conserver leur titre en à peu près 15 minutes 30. Donc, bon match. Les gens étaient très investis. 3,75, tiens, soyons généreux. C'était très bien, c'est très bien le match de la soirée du côté de SmackDown. Et là, pour terminer et clore tout ça, on avait Sami Zayn, la shot avec le popcorn. Et littéralement, c'est graphique, mais c'est ça. Allez voir Sami qui, malheureusement, est venu dans son popcorn. Pour y éclabousser son popcorn partout dans le vestiaire de Roman, tout en tenant son bucket de popcorn près de sa fourche. Puis il était comme... C'était très graphique, mais c'était ça, SmackDown, ce soir. Alors, belle présence de Sami Zayn, belle présence de la Bloodline. Et, bien, naturellement, les mangeux de réglisse, naturellement, ont pas été... ça n'a pas été une grosse soirée pour les mangeux de réglisse, mais on est habitué, c'est pas grave, ça prend pas trop. Tu sais, on a des bons segments de la Bloodline, alors. C'est pour ça que SmackDown, c'est bien meilleur que Raw. Parce qu'à Raw, on a moins de segments de la Bloodline. Voilà. J'aimerais ça vous dire autre chose, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'était très bon. Tous les segments de la Bloodline valaient la peine. Et l'extase de popcorn. Sacré Sami. Toujours prête à faire un mime. Oh, cet homme. Il est des nôtres. Quel champion ça va être? S'il est champion par équipe, peut-être. Ou peut-être, hey, qui dit qu'il ne soit pas champion universel? Gagne le Royal Rumble, toute la patente, on ne sait plus. Ça nous amène maintenant au deuxième show de cette soirée de fou, c'est-à-dire AEW Rampage. Ce soir, Rampage était en provenance du Veteran Memorial Coliseum à Portland, en direct en Oregon ce soir, parce qu'il y avait la présentation tout de suite après de Battle of the Belt. Donc, un peu pour faire concurrence à la foule de Full Seattle. Ça a été un peu la même chose pour la foule de Portland, qui était très en feu, elle aussi, qui accueillait la All Elite Wrestling pour la première fois. Et on les a gâtés dès le départ avec Top Flight, qui affrontait le BCC. Disons-le tout de suite, le match, fantastique. Fantastique. Si vous aimez Top Flight, si vous aimez le BCC, c'était du bonbon. Toutes les manœuvres qu'ils ont faites, l'intensité, le parallèle était parfait. Les gars de Top Flight ont tout donné. Les moves qu'ils font, c'est incroyable. À un moment donné, Darius a saisi Dante, puis il l'a lancé dans les airs. Pour que lui retombe en arrière de Moxley pour faire une German suplex. Ça, aucun bon sens. Aucun bon sens. C'était de toute beauté de voir aller les deux. Puis l'autre équipe, Danielson qui revenait très intense, puis qui y allait, les deux à la manière du BCC, très rough. Mais le style était parfait, le mix des deux styles était parfait. Et c'est le BCC qui l'a emporté. C'est Danielson qui a fait un stomp sur Darius, c'est stomp dans le coin. Avant d'y faire le Regal Stretch, oui. Encore une fois, aucune mention du Regal Stretch. Alors que Moxley, lui, s'était lancé du coin sur Dante à l'extérieur pour l'empêcher de venir intervenir dans le ring. Voilà, c'est dit, 4$, tout est beau. Maintenant, mon seul bémol. Je comprends que tu veux donner à la foule de Portland Bryan Danielson. Maintenant, tu les fais affronter Top Flight. C'est le fun. C'est beau. On s'amuse. On a eu un match incroyable. Très bon. Wow! Sauf que Bryan Danielson est présentement le babyface qui est supposé être ton top babyface, qui est supposé affronter ton top heel. Puis tu le fais affronter des gars qui tu peux pas haïr Top Flight. Tu peux pas les haïr. T'es comme... Ah, ils sont tellement beaux. Innocent, jeune, plein de fougue. Puis là-dedans, ben, les pas fins, puis les sauvages, puis les gars qui sont des brutes, mais c'est le BCC. Fait que malgré qu'on aime BCC, on est comme, ah, Christy, soyez pas, t'sais, allez-y doucement avec Top Flight, t'sais. Fait que c'est comme, pourquoi tu fais ce booking-là quand on est à l'aube de la grande traversée des épreuves de Bryan Danielson envers... Ça marche pas. Ça marche pas, ce booking-là. Puis oui, dans la révision cette semaine de Dynamite, disait, ouais, il y avait des affaires de Dynamite, ça sonnait. Ça avait l'air de des affaires d'house show. Ça aussi, ça a l'air d'une affaire d'house show. C'est pas crédible. C'est pas. C'est comme tout le monde, genre, est over. Puis c'est pas bon. C'est bon sur papier, c'est le fun, on s'amuse, on a eu un match incroyable. Mais t'es en train de construire Danielson pour être ton top babyface. Puis là, il faut qu'il soit babyface, mais les gens ne peuvent pas l'aimer par-dessus la tête en le voyant ce qu'il fait de sauvage au pauvre petit Darius. C'est des détails, vous allez me dire. Mais c'est ça. C'est ça pareil. On peut pas. C'est ça. Voilà. Mais je sais, là. Mais là, la semaine prochaine, première étape, Danielson doit affronter Konosuke Takeshita. Puis t'es comme, mais oui. Je comprends, ça va être un gros match, ça va être un excellent match, ça va être bon, ça, c'est des matchs de rêve, tant mieux, yeah, youpi. Mais en même temps, t'es comme, pourquoi? Mais pourquoi? Le premier épreuve, c'est tu vas faire perdre Takeshita. Puis on veut, puis il y a même des rumeurs qui disent qu'on veut pousser Takeshita. Ben oui, mais on ne poussera pas Takeshita. Tu le fais perdre encore? Puis on est comme, ah, on va être fâché qu'il perde. Ah, Colin, il va perdre. Ça va être un excellent match. Mais il va perdre. Fait qu'on est comme, ah, yeah, Danielson. Ça! C'est ça qui est fâché. Faites-nous aimer. Il faut plus. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec cette analogie-là, vous avez le droit, vous avez le droit. Mais on va revenir tantôt sur ce qui s'est passé dans Battle of the Belt. Vous avez la preuve. À Battle of the Belt, vous aviez la preuve. Bon. Deuxième match. On a eu Britt Baker et Jamie Hayter. Le même maudit problème contre les Renegades. Pourquoi je dis que c'est le même maudit problème? Les gens étaient full derrière Britt Baker et Jamie Hayter. Mais à un moment donné, il faut que Jamie Hayter et Britt Baker assument le fait que c'est des heels. Mais leur réaction full face. Alors les Renegades ont commencé le match full heel. Parce que là, ils sont comme... Mais à un moment donné, ils tiennent tête à Britt Baker, à Jamie Hayter. Fait que là, ben, ils s'en virent de bord. Puis là, ben, ils disent, ben, Colin, ils tiennent tête. Fait qu'ils sont bonnes. Fait qu'on va les encourager. Fait que là, on est tout mêlés. Ça a été un très bon match. Très bon match par équipe. Jamie Hayter, Britt Baker, qui ont quand même bien fonctionné. Mon petit bémol, naturellement, c'est que Jamie Hayter prend trop de heat ou reçoit trop de coups. Tu sais, Britt Baker est souvent en train d'attendre le hot tag dans le coin. C'est Jamie Hayter, la championne. Renverser les rôles. Il faut que Britt Baker, ça aille mal. C'est ça qui est intéressant. Sinon, il faut que Jamie Hayter gagne sans avoir besoin de Britt Baker. Puis que là, Britt Baker soit comme, oh shit, je suis peut-être inutile. Ah, I, A, O. Les Renegades, malgré, ils ont fait une petite erreur ce soir en n'ayant pas les cheveux. Elles qui sont jumelles, on n'avait pas les mêmes cheveux. Puis ça, pour des jumelles, c'est très important d'avoir les mêmes jumelles, les mêmes cheveux, parce qu'il faut que tu puisses sortir du ring, rentrer dans le ring, puis faire semblant que tu n'es pas la même, puis tout. Mais ils l'ont manqué, cette affaire-là. T'sais, les Usos ne peuvent plus faire ça parce qu'ils n'ont plus les mêmes cheveux. T'sais. Mais les Renegades, elles, sont à l'époque où ils sont encore capables, tu sais, ils sont pas connus encore, on n'est pas capable de les différencier l'une de l'autre. À part leurs cheveux. Faites pas ça. Enfin. Donc, très bon match quand même. Et c'est finalement Hayter qui a réussi tout le travail pour Britt Baker en faisant le coup derrière la nuque, la souplesse directement sur le genou, le Big Lariat, et a permis à Britt Baker d'exécuter le stomp pour la victoire. Très bon match. Le fun. Un bon 3,5. Parfait. C'est pas Britt Baker qui doit gagner. C'est Jamie Hayter, la championne. Voyons. Tabarnane que c'est pas facile d'écrire des histoires. Faut que Britt Baker soit jalouse de Jamie Hayter. Si elle gagne les matchs, pourquoi elle serait jalouse? Ah, Christy. L'impression de parler à un gars qui est sa cocaïne. Bref, troisième match, nous avions Perro Peligroso Preston Vance qui affrontait Sorico. Sorico. Ça a été 42 secondes de pur supplice pour Sorico qui a perdu face à la prestance de Preston Vance. Spinebuster, Full Nelson, Lariat, Terminado. Et là, à la fin du match, Preston a arraché le masque de Sorico. Ils l'ont tiré sur le haut de la rampe en plus. Pauvre petit Sorico. Alors, première belle prestation pour Preston Vance. Voilà. Ben, c'est ça. Le main event de la soirée. Avant le main event, on a eu une petite promo du House of Black pour jouer dans la tête de Eddie Kingston et de Ortiz en parlant à Eddie Kingston, lui disant « Ah, t'es malade, mon Eddie. » Parce que là, avant, t'étais un gars tough qui se promenait avec un gun dans les poches. Ce qui est vrai, authentifié par Pee-wee lors du passage d'Eddie Kingston à Québec, qui se tenait proche de la porte parce qu'il lui disait « Si ça brosse, moi, je serais mieux être proche de la porte pour sacrer mon camp. » Il disait « On n'est pas à New York ici. On est à Québec. T'es correct. T'es safe. T'es safe. » Bref, il a dit « Ah, t'es moins tough que t'étais. Avant, t'étais un sadique. On aimait ça, nous autres. Mais ça va plus bien. Mais on peut t'aider. On est là pour t'aider, nous autres. » Il y aura réponse durant Battle of the Belt. On verra bien. Main event de la soirée, c'est Darby Allin qui affrontait Mike Bennett. C'est ça aussi. Ça, c'est du booking très All Elite Wrestling. Pourquoi? Parce que Mike Bennett, aviez-vous souvenance que Mike Bennett et le Kingdom étaient à All Elite Wrestling? Il fallait avoir une très bonne mémoire. Mais Mike Bennett a eu la grande idée d'aller voir Darby Allin tout de suite après sa victoire contre Samoa Joe et de dire « Hey, toi, t'aimes ça les Open Challenge? On va t'affronter, moi. » C'est très bon. Bref, c'est quand même un gros main event, hein? Un gros moment. Et là, ben, Darby, durant le petit segment avec Mark Henry, a dit « Ah, on s'en fout de tout ce que t'as fait dans le passé, Mike Bennett. C'est à soir que ça compte. » Oh là 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 là. Alors, Darby, qui n'a pas amené son skateboard au ring parce qu'il était encore mal en point de son match contre Samoa Joe. Donc, on a commencé avec un match très technique, dominé naturellement par Bennett. Il s'est attaqué au genou, envoyé Darby à l'extérieur pour y faire très, très mal. Ensuite, il y a eu des interventions aussi de la part de Matt Taven, qui était aux abords du ring. Darby, une première fois, s'est lancé en suicide dive sur Matt Bennett à l'extérieur, mais Taven l'a poussé Mike pour recevoir le coup et donc empêcher que Bennett se fasse avoir par le suicide dive. Ensuite, Bennett est revenu avec un Russian leg sweep sur le tablier jusqu'à l'extérieur du ring, très violent. Par la suite, Darby, lui, a assis Bennett sur une chaise et monté sur le troisième corde et sur la troisième corde et il s'était lancé en dropkick directement sur Bennett assis. Très violent dropkick, les gens ont beaucoup adoré. Maria Kanellis aussi qui était là et là finalement quand Darby a ramené Mike Bennett dans le ring, elle s'est couchée sur Mike Bennett pour empêcher Darby de faire le coffin drop. Ça a permis l'intervention de Matt Taven pendant que l'arbitre était distrait et finalement Mike Bennett a tenté de finir le match avec le pile driver, mais Darby a kické out à 2.9 et finalement l'action dans le coin a permis à Darby de faire un avalanche code red suivi du coffin drop pour aller chercher la victoire en 12 minutes et conserver son titre TNT. Très bon match, match le fun. Est-ce que c'est assez pour que Mike Bennett monte les échelons et se retrouve à la télévision plus souvent? Tiens, probablement pas. C'est ça. C'était une belle défense de titre. Les gens étaient contents. Mais c'est pas la grosse... c'est pas la grosse affaire, malheureusement. C'est un peu le problème, des fois, de All Elite, d'avoir des matchs trop importants sur la carte avec des gens qui sont pas construits, des gens qu'on voit jamais et qu'on n'a pas vraiment d'intérêt de les voir. Alors, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mike Bennett, qui est pas mauvais, mais si tu me le construis pas ou tu me le construis à Dark, mais j'écoute pas Dark. Je suis désolé. Alors, c'est ça. Ça a donné ce match qui était très bon, mais je ne pense pas que ça va donner plus nécessairement au Kingdom. Alors, on verra bien. Donc, dans l'ensemble, Rampage correct, fait pour la foule. Détail que on frappe sur le clou. C'est tellement meilleur, Rampage, quand c'est en direct. je comprends que c'est compliqué. Je comprends qu'il y a tous les conflits, puis il faut que tu sois à deux arénas, puis c'est deux fois dans la même semaine, etc., etc. Je comprends tout ça. Mais c'est tellement meilleur, Rampage en direct, que juste pour la foule. T'sais, c'est ça. Mais bon, on va pas... je pense que Tony Khan, il doit s'en rendre compte un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'ils vont trouver une solution à un moment donné. On le sait pas. Ce soir, on avait donc le dernier show qu'on attendait. C'était le Battle of the Belt numéro 5 maintenant. Celui où on s'est pas forcé pour la carte, disons-le. Soyons très honnêtes. Toujours en provenance du Veteran Memorial Coliseum à Portland, en Oregon. Et bien, on a commencé ça immédiatement avec le match No Holds Barred. Anything Goes, The Acclaim, qui défendait leur ceinture par équipe face à Jay Lethal et Jeff Jarrett. Il y avait la pression de refaire, hein, de ne pas être trop proche de ce qu'on a fait mercredi dernier. Fallait être original. On a été original, mais je ne suis pas sûr que c'était la des meilleurs des meilleurs. Mais bon, parlons de ce qui s'est passé dans le match. Naturellement, le rap de Max Caster, très attendu, et la ligne est sortie. Il a comparé Jeff Jarrett en disant qu'il était pire que Vince McMahon. C'est-tu pas gentil, ça, de dire des affaires de même aujourd'hui? Oh là 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 là. Bon, Jeff Jarrett et Jay Lethal l'ont attaqué dès le départ. Jay Lethal a amené Anthony Bowens, oui, sur la rampe, au haut de la rampe. Lui a fait le figure four et les deux ont roulé dans le figure four jusqu'en bas de la rampe. Ensuite, Jarrett va interrompre le scissor de la troisième corde. Ensuite, Jay Lethal et Jarrett vont se moquer, mais pas se moquer, se faire en duo le petit throttle de Jeff Jarrett en duo pour se moquer de leurs adversaires, ce qui va nous amener à la première pause. Caster a ensuite appliqué le ankle lock à Jeff Jarrett, se moquer naturellement de sa douce, qui est l'ancienne épouse conjointe de Kurt Angle. Ensuite, Lethal va sauver Jeff Jarrett en faisant une descente du coude sur l'arbitre. Ben oui, directement sur l'arbitre, droit dans le dos, pif. Alors là, Billy Gunn est intervenu, le géant est intervenu, Jeff Jarrett a pris sa guitare, Billy est venu pour intervenir, pour l'empêcher, finalement, Jarrett lui a donné un low blow, mais Billy a quand même fait fi de cette douleur dans les parties basses pour quand même enlever la guitare à Jeff Jarrett, et là, le géant est intervenu, donc c'est le géant qui a mangé un coup de guitare directement de la part de Billy, mais le géant, il avait juste un petit mal de tête. C'était pas assez pour qu'il tombe. Donc, il a fait un double choke slam sur les claims en stéréo. Jarrett, ensuite, a servi un stroke à Billy Gunn. Le géant n'était pas au bout de ses peines. A donné un choke slam au deuxième arbitre qui était venu pour régler la situation. A enlevé le chandail à l'arbitre et l'a donné à Sonjay Dutt qui, lui, l'a mis pour pouvoir faire le tomber. Et donc, Lethal Injection de la part de Jay Lethal sur Anthony Bowens. Un, deux, et qui arrive du pas à la rescousse? Aubrey Edwards qui sort Sonjay Dutt du ring. Et là, commence à l'engueuler. Et là, finalement, les deux remontent dans le ring. Puis elle dit, non, t'es pas un vrai arbitre. Et là, elle pogne son crayon. Puis crac! Elle craque le crayon de Sonjay Dutt avant de le pousser. Et là, lui, il tombe en bas du ring. Et là, ben, arrival d'Anthony Bowens et mic drop. Et victoire des Acclaimed qui conservent leur titre par équipe. Et là, ben, les gens qui célébraient Aubrey Edwards et ben, au moment de faire le scissor me, daddy ass, Aubrey Edwards a fait le ciseau avec The Acclaim. Je l'ai dit tantôt. C'est parfait pour un house show, ça. Mais c'est pas bon pour la télévision. Faites pas que Aubrey Edwards, je comprends, elle est chez elle, les gens l'adorent, parfait, OK, OK. Mais c'est pas un house show. Les arbitres, je comprends. Mais les arbitres sont là pour... Ils sont comme le ring général. La sainteté de ce square circle. C'est très important. On ne peut pas juste arriver et faire gagner une équipe et faire comme « Ah! On a gagné, les boys! » Ça, tu fais ça dans les house shows. Il y a, si vous l'avez vu passer, il y a Jessica, l'arbitre de la WWE dans un house show, qui a fait un stunner à Sami Zayn. Puis après ça, Kevin Owens qui a fait un stunner à Sami Zayn. Oui, ça marche, c'est ça, c'est ces moments-là. Ça, c'est le fun pour la foule qui sont là, qui sont présents. Parfait. Mais tu fais pas ça à la télévision. Faites pas ça à la télévision. Fait qu'Aubrey, pas de ciseaux. C'est pas bon, ça. Après, là, comment qu'elle peut avoir son impartialité dans les matchs de The Acclaim? C'est des détails. Vous allez me dire, on s'en sac complètement. On s'en sac complètement. Mais, faites pas ça. L'autre affaire que je voulais mentionner par rapport à ce match, regardez l'arsenal de moves de The Acclaim. Ils sont excellents dans le ring, mais ils sont pas... C'est pas des lutteurs par-dessus sa tête. Tu sais, tu compares à Top Flight. Top Flight sont beaucoup plus spectaculaires que The Acclaim. Mais qu'est-ce qui manque à Top Flight pour être comme The Acclaim? Ça s'appelle une gimmick. Ça s'appelle du charisme. Ça s'appelle le soutien des gens. Bon, vous allez me dire, Top Flight, ils ont le soutien des gens. Oui, mais ils n'ont pas tant de charisme. Puis, ils n'ont pas de gimmick, à part d'être des high flyers. Et c'est ça que ça va leur prendre un jour, de se développer une personnalité. Alors, qu'est-ce qui est plus important, d'avoir un moveset ou d'avoir une personnalité? Ben, The Acclaim, eux, ils n'ont pas eu besoin d'avoir tant de movesets, mais juste d'avoir une personnalité, ça les a propulsés au top. Top Flight, ils ont beau avoir un moveset incroyable, si jamais leur personnalité n'évolue, ils ne seront jamais champions de quoi que ce soit. Alors, c'est ça. C'est faux. C'est plus important ça. Fait que les détails de toute la patente, de tout comment qu'on ressent les affaires par rapport à eux, c'est plus important ça que d'être capable de flipper. Malgré que c'est incroyable ce qu'ils font. On adore ça. Mais c'est ça. C'est mon conseil à Top Flight. Faites pas du rap, là. Mais voilà. Pendant que je vous lis. Ça peut pas être un peu vendu, ça. Oh là, je sais pas à quoi tu fais référence, Jérémy. Jérémy qui dit, ce sont des sports entertainers plus que des lutteurs, que les fans de la All Elite le veulent ou non dans la personnalité des lutteurs, effectivement. Ben oui, c'est des sports entertainers, puis c'est correct. T'sais, il faut que tu sois un peu quand même sports entertainer. Il faut que tu... C'est pas vrai que la All Elite... Puis les fans de All Elite, c'est pas vrai que les fans de All Elite, ce sont simplement des fans de pure lutte, puis de prouesse dans le ring, pis etc. Non, c'est pas vrai. Parce que les plus gros personnages, les plus gros pop, que ce soit, même si on veut inclure CM Punk, c'est pas son in-ring, c'est ce qu'il raconte. MJF, c'est pas son in-ring. Son in-ring est très bon. Faut que ton in-ring soit capable de soutenir ta personnalité. Mais c'est ta personnalité. Puis même si on veut aller jusqu'à John Moxley n'a pas un arsenal de moves incroyable, mais c'est son intensité. C'est ses affaires dans le ring. C'est ce qu'il nous raconte. C'est de la façon qu'il vend les moves, etc. C'est ça. C'est les histoires qu'il nous raconte. C'est la personnalité. C'est tout ça. D'ailleurs, Eggman Page a fait une promo ce soir. Et là, ben, c'est officiel. Il a réussi son brain scan. Hallelujah! Hallelujah! C'est un autre Eggman Page. Ça commence. Mais en même temps, toute son histoire a été bonne, sa personnalité, des fois, ses promos avant, c'était... Puis là, ça commence, là, on sent que il y a une vraie intensité. Il y a quelque chose. Jérémy qui faisait référence, oui, à Aubrey, OK, ouais, qui était pas mal vendu. Oui, effectivement, ça manque de quelque chose. Mais c'est correct en house show. C'est juste qu'à la TV, ça marche moins. Ça marche moins à la télé. Mais enfin, c'est juste des détails. C'est pas si grave. Tant qu'on a du plaisir. Mais s'ils veulent évoluer, c'est ça. C'est de même. Book of Hobbs. C'est très intéressant, ça. Book of Hobbs qui nous a dit que dans son livre à Hobbs, tout ce qu'il a vécu toute la misère, le sang qui est perdu, la sueur, tout ça, la douleur, c'est tout écrit dans son livre. Et on va tous subir ça. Tu sais, c'est comme, ça dit beaucoup, mais en même temps, ça veut rien dire pantoute. C'est beau. C'est très, 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 très beau. Match qui m'a étonnamment fait réagir un peu, quand même, chez moi. Jade Cargill, qui défendait son titre contre Sky Blue. Et non pas Sky Clue. Parce que Sky Clue, ça, c'est le personnage que va soupçonner dans la bibliothèque. Sky Blue, voilà. Sky Blue, qui, sorti de nulle part, a eu un match de championnat pour le titre TBS de Jade Cargill. Jade, qui était 47-0 à ce moment-là, et qui portait aujourd'hui la petite couette. Un peu à la manière de Konosuke Takeshita. C'était très, très joli dans les cheveux gris. Pas de Red Velvet, seulement Layla Gray en sa compagnie. Donc, pas de Red Velvet, non. On continue cette histoire. Et donc, premier fait saillant quand Jade a saisi Sky Blue à l'extérieur en chokeslam. Il lui a fait un chokeslam directement sur la rampe. Ça a l'air de faire très mal. Aubrey est resté de longues secondes en compagnie de Sky Blue à l'extérieur pendant que Jade est remonté dans le ring pour faire semblant de compter. Ce qui a fait sortir Red Velvet, qui était très fâché, mais qui est resté sur le haut de la rampe. Et là, finalement, elle a attendu que la pause soit finie pour finalement descendre aux abords de la rampe, et elle a giflé Layla Gray. Oh là là! Mais ça n'a pas tant empêché Cargill de dominer le match. Sky Blue est revenu, a renversé une première fois le Jaded. Les gens y ont cru. Mais quand même, un petit moment où justement elle a fait le Code Blue, est allée chercher un compte de deux, mais a fait une gaffe, c'est-à-dire de sauter de la troisième corde comme Dante Martin. Et Jade l'a capté au vol, l'a flippé, flap, flap, flap des airs pour la positionner en Jaded. Et puis elle s'est exécutée pour aller chercher la victoire. 48-0 maintenant. Donc, belle défense de titre quand même. Un bon match, je pense, un des meilleurs matchs de Sky Blue. Et un bon match pour Jade Cargill. Et à la fin, ben, elle a envoyé le doigt d'honneur à Red Velvet qui remontait la rampe, qui, elle, l'applaudissait de façon ironique pour sa victoire. Donc, il y aura éventuellement, on le soupçonne, match entre Jade Cargill et Red Velvet pour le titre TBS. J'ai donné 3$. 3$ pour ce match quand même. Ça valait la peine. Là, avant que je vous passe au main event de la soirée, Dynamite à Los Angeles la semaine prochaine, attachez vos tuques. Ça va être une édition assez intense de Dynamite. On aura Hangman Page contre Jon Moxley, ça a été officialisé aujourd'hui. Danielson qui va affronter Konosuke Takeshita. Britt Baker, Jamie Hayter contre Saraya et Tony Storm. Oui, oui, oui. On verra bien ce qui va se passer avec ça. Jungle Hook. Donc, Jungle Boy et Hook qui vont faire équipe pour la seule et unique fois, jamais plus, contre Big Bill et Lee Moriarty. Stokely Hathaway a dit que Los Angeles, c'était la ville où les entertainers allaient pour mourir, et c'est ce qui va arriver à Jungle Hook. On verra bien. Il y aura une promo du JAS et ce sera naturellement le match numéro 7, Escalada de la Muerte, The Triangle face à The Elite, les titres trio qui seront au sommet. Et avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, je me suis dit, ah là là, si Tony Khan voulait complètement mettre Internet en mode le monde se pète, ça n'a pas de bon sens. Imaginez le scénario de rêve où après le retour de Vince McMahon, The Elite, au bout de leur sang, au bout de leurs doigts, finissent par décrocher les titres trio. Leur chanson se retentit dans l'aréna. Quand tout à coup, c'est coupé. Et CM Punk arrive en compagnie de FTR au haut de la rampe. S'il fallait que ça arrive là, à Hollywood, là. Oh là 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 là. Vous allez me dire, c'est vraiment pas fin de gâcher puis de vous donner des espoirs comme ça. C'est vrai. Je pense pas que ça va arriver. Honnêtement, les chances que ça arrive dans mon esprit, 0,25% de chance que ça arrive. Mais si ça arrivait, là, je dis 2023 viendrait tout péter ce que 2022 a tout pété C'est incroyable. Ce serait incroyable. Mais bon, ça n'arrivera pas, mais ça va être sûrement un excellent match. Kenny Omega qui est connu une semaine fantastique. Alors, ça sera très intéressant. Et à Rampage, on aura Ortiz et Eddie Kingston qui vont affronter House of Black ou les Kings of the Black Throne parce que ce sera seulement Malakai Black et Brody King. Tandis que Anna Jay et Ty Mello vont affronter Ruby Soho et Willow Nightingale dans un street fight. Et Ruby Soho était prête dans la promo avec son bâton d'hockey. Elle est prête à t'approcher en pleine face sur Ty Mello. Alors, ce sera ça à Rampage vendredi prochain à heure régulière, j'imagine. Le main event de la soirée, c'était Orange Cassidy qui affrontait Kip Sabian pour le titre All Atlantic de la All Elite Wrestling. Il y a seulement Danhausen qui accompagnait Orange Cassidy au ring, pas de best friends, parce que les best friends étaient fâchés contre Orange Cassidy avec ce qui s'est passé la semaine dernière, puis que le Penelope Ford est intervenu pour être. En tout cas, bref, il y a de la bisbille. Il y a bisbille. Il y a de la bisbille. Donc, Kip Sabian, en premier fait saillant, est allé s'asseoir à l'extérieur, mettre les lunettes de Cassidy et chanter Zombie des Cranberries, un classique. Hein? In your head, I'm in your head. C'est très bon. The Bunny est arrivé au ring pour créer encore plus de distractions. Finalement, ben, Sabian, Ford et The Bunny se sont fait un petit câlin à l'extérieur à la manière des best friends pour les narguer. Danhausen est allé ensuite jeter le mauvais sort à Sabian qui lui a mordu le doigt, ce qui a permis à Cassidy d'y aller d'un suicide dive. Sabian a ensuite fait un brainbuster à Cassidy à l'extérieur après avoir attrapé Cassidy une deuxième fois en suicide dive. Les deux ensuite se sont battus sur le haut, dans le coin, et Cassidy a fini par appliquer une superplex. Ensuite, Cassidy a enlevé son coude très fâché, mais The Bunny lui a agrippé la jambe et là, ben, l'arbitre l'a vu faire. Donc, il l'a expulsé du match. Danhausen l'a suivi, puis là, ben, il se moquait d'elle. Mais là, Butcher and the Blade sont arrivés, très choqués de cette situation. Ils ont massacré Danhausen. Ils se sont sortis des chaises et ils se sont installés sur la rampe pour regarder le reste du match. Ensuite, on a échangé des coups d'avant-bras à toi, à moi, jusqu'à temps que Sabian se mette à imiter Cassidy encore une fois. Et là, y aller avec ses petites claques à la manière de Cassidy, donner des petits coups de pied, des petites claques, des petits coups de pied. Mais Cassidy était trop fâché, puis il donnait lui des gros coups. Il était vraiment fâché. Sabian est revenu en faisant semblant de mettre ses bras dans les airs pour mettre ses mains dans ses poches. Il donne un gros coup de tête, un coup de genou dans la face. Les best friends, ensuite, sont arrivés à la rescousse pour sauver Cassidy d'une attaque de Butcher and the Blade. Et ils ont attaqué, donc, pour annuler les forces, oui, et faire en sorte que Butcher and the Blade soit mis de côté. Ensuite, Sabian est revenu. Corkscrew Neckbreaker pour un compte de deux. Sabian a ensuite fait un Orange Punch, mais Cassidy n'a pas voulu tomber. Il est revenu en faisant le Tornado DDT, suivi du piqué à la manière de Kip Sabian. Beach Break, encore une fois, pour un compte de deux. Et là, ben, Cassidy était enragé, tout feu, tout flamme, mais il a perdu la tête tellement qu'à un moment donné, Paul Turner voulait l'arrêter. Il l'a repoussé à terre. Puis là, ben, Paul Turner, il était sur le bord de le disqualifier. Là, il était comme, oh, qu'est-ce que tu fais? Et finalement, Cassidy s'en est sorti et a exécuté deux Orange Punch et est allé chercher la victoire. En 16 minutes 5, on leur a donné beaucoup de temps. Très, très, très bon match. J'ai donné 3,75 à ce match-là. Très intéressant. Ça met, on a planté beaucoup de petites graines là, que Cassidy, éventuellement, je pense qu'il va finalement redevenir ou devenir heel, je devrais dire. Il est fâché. Je ne sais pas comment ça va se traduire plus tard, comment on va le transformer. Mais on sent que bon, toute la bisbille qui a été placée, avec des best friends, etc. Je pense que ça va faire en sorte qu'un jour, Cassidy va devenir heel. C'est un match très intéressant. Donc, ils ont bien joué leur carte. Après, Kip Sabian, qu'est-ce qu'il va faire après? Pas trop sûr, mais c'était quand même très intéressant comme match. On a bien fait ça. Sûrement faire un clan, puis là, avec Butcher and the Blade, etc. On verra où ça va les mener, si on continuera des matchs trio, peut-être avec les best friends, etc. Mais ça a donné un excellent main event qui m'a surpris. Honnêtement, je ne pensais pas que Kip Sabian et Cassidy allaient donner un aussi bon match. Mais c'était vraiment réussi. Pour un Battle of the Belt, Mémorable, non. C'est une extension de Rampage. Ça a donné un gros Rampage, le fun. On s'est bien amusé pendant 2 heures. On a eu quand même beaucoup de bons matchs. Maintenant, est-ce que c'est justifié, ce Battle of the Belt? Pas tellement. La formule, c'est correct, mais sans plus. Je trouve pas que c'est hyper nécessaire à tout ça. Mais bon, on verra combien de temps ça va durer, tout ça. Je ne sais pas si, tu sais, je sais pas les chiffres que ça va donner vraiment avec une carte qui n'était pas sur papier hyper attrayante. Je ne sais pas pourquoi on met tous les titres secondaires au lieu de faire des défenses de titres un peu plus significatives. Je ne sais pas. C'est le choix de Tony Khan et de plus en plus, à chaque événement, il y a de moins en moins de titres importants qui sont défendus. Donc, je sais pas, j'ai un peu de misère à comprendre c'est quoi la logique de tout ça. Mais le positif, c'est que ça nous donne un deuxième show qui est devant public. Et ben c'est le fun quand on le fait, je pense, sur la côte ouest, parce que les gens ont plus d'énergie. C'est pas à des heures hyper tardives pour eux. Puis, je pense que ça fonctionne bien. Donc, formule à répéter, Seattle et Portland, qui ont été deux excellentes foules pour All Elite Wrestling. Même celle au Texas, ça fait du bien. J'ai l'impression aussi qu'à Los Angeles, ce mercredi, ça va être très fort. Les réactions vont être très fortes. Jungle Boy, entre autres. Les Young Bucks, naturellement. Donc, je pense que c'est bien. Ça aide beaucoup le produit de la All Elite Wrestling, surtout parce que des matchs comme celui-là, ben, sur papier, c'est des matchs de mid-carder qui sont plus ou moins intéressantes, mais avec la foule qui est super dedans et qui aide énormément au spectacle, ça redonne beaucoup de lustre à la All Elite Wrestling. Et le timing, tout est une question de timing. Et le timing, présentement, il est bon. Il est bon pour eux. Alors, on va voir dans les prochaines semaines. Puis la semaine prochaine, j'ai l'impression que ça va être très, 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 très gros. J'ai bien hâte de voir la réaction pour Kenny et pour les Young Bucks à Los Angeles pour le dernier match de cette série de 7, entre autres. Jérémy qui dit « Kenny Two Belts », ce sera, oui, effectivement, ça pourrait très bien être Kenny Two Belts. Je ne sais pas si on va le mentionner, je ne sais pas si on va le présenter avec la ceinture. Est-ce qu'il sera, vu que ce n'est pas une ceinture de la All Elite Wrestling? On le fait habituellement, on l'a fait avec les FTR, entre autres. Est-ce que Kenny va sortir avec sa ceinture? À voir, mais ça va être intéressant, la réaction qu'il va obtenir. Hey, on est passé au travers, tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là à cette heure de la nuit. Alors, la semaine prochaine, encore une grosse semaine. Lundi, naturellement, on va apprendre les raisons pour lesquelles Alexa Bliss a fait tout ce qu'elle a fait. On verra bien ce qu'elle va nous raconter la semaine prochaine. Mercredi, le Dynamite. SmackDown et Rampage, vendredi prochain. Terminé notre semaine. 2023 est parti sur les chapeaux de roue. J'ai pas l'impression que les nouvelles vont arrêter. J'ai l'impression même qu'il y a beaucoup de stock qui va sortir. Et si on lit entre les lignes de ce qu'on a lu dans le communiqué et dans les courriels qui sont sortis, ben, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas encore publiquement qui pourraient ressortir concernant Vince McMahon. Alors, ça va être très intéressant de suivre tout ce dossier dans les prochaines semaines. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous ceux qui étaient là sur le chat. Merci Jérémy, Ricky, Yann, tout ça. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser des likes sur les différentes plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes audio et en balado, naturellement, de la révision des comptes. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour une autre révision des comptes. Ciao tout le monde.
Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny. de golf pour Benny. Une clave de golf pour Benny. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey.